Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
Bonsoir à tous, ravie de vous accueillir pour ces deux heures d'infos, de débats et de points de vue. Et ce soir, alors que Conflans-Sainte-Honorine rend hommage en ce moment à Samuel Paty avec une marche blanche à la veille de l'hommage national, on évoquera notamment la course contre la montre lancée par l'exécutif qui doit apporter des réponses concrètes face à l'émotion suscitée par ce drame. Fini les incantations, place à l'action avec le ministre de l'Intérieur en première ligne. On en parlera notamment avec mon invité à 18h20, l'essayiste et géopolitologue Frédéric Ancel. Et on en parlera aussi avec les grandes voix. Et puis dans votre club des idées, entre 19h15 et 20h, on se demandera comment mieux contrôler les réseaux sociaux qui ont joué un rôle évident dans l'engrenage de l'attentat. Là aussi, ça paraît simple, mais c'est très compliqué. Ça n'est pas la première fois qu'ils sont mis en cause. Là encore, le gouvernement semble déterminé à prendre le problème à bras-le-corps. Mais avant cela, l'info avec le journal présenté ce soir par Christophe Lamar. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Isabelle.
C'est un soutien, c'est le soutien entre victimes déjà, que la population suit, et automatiquement, oui, c'est très très important.
L'hommage d'une ville à son professeur d'histoire, Conflans-Sainte-Honorine, se rassemble pour une marche silencieuse qui débutera dans une demi-heure.
L'enquête sur l'assassinat de Samuel Paty, les policiers ont la certitude qu'il y a bien eu des échanges de messages entre le parent d'élève à l'origine des publications appelant à la mobilisation contre l'enseignant et le terroriste.
Hommage à Conflans-Sainte-Honorine, hommage à l'Assemblée nationale, mais la politique a vite repris le dessus. L'opposition tape du poing sur la table, l'exécutif veut prendre de la hauteur. Séance houleuse, nous dira Claudia Bertram.
Les réseaux sociaux, on le disait, dans le viseur du gouvernement. Le Premier ministre Jean Castex annonce des mesures pour empêcher la propagation de propos haineux sur Internet.
On en oublierait presque le coronavirus. Le nombre de morts liés au Covid-19 continue d'augmenter. Et en Europe, ce n'est guère mieux, l'Irlande et le Pays de Galles reconfinent.
Le foot, c'est le retour de la Ligue des Champions ce soir et ce sera une grande première pour le Stade Rennais, on sera sur place bien évidemment.
La Bourse de Paris finit en léger repli, moins 0,27% à 4 929 points.
La tendance météo, bonsoir Anissa Haddadi.
Bonsoir Isabelle.
Et attention au vent fort ce soir et demain.
La tempête Barbara arrive, l'événement commence à l'instant et va toucher le sud-ouest et le massif central. 12 départements sont placés en vigilance orange par Météo France. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
C'est ici que tout a commencé, c'est ici que le drame s'est joué. Conflans-Sainte-Honorine s'apprête à rendre hommage au professeur Paty.
Une marche blanche pour saluer effectivement la mémoire de cet enseignant. Elle doit partir d'ici une demi-heure devant le collège où ce professeur enseignait. Pierre Herbulot, on imagine qu'il y a déjà du monde.
Oui, quelques centaines de personnes déjà rassemblées sous le préau à l'entrée du collège. Il y a ici, devant le gigantesque parterre de fleurs, de bougies, de dessins, une ambiance extrêmement lourde, pesante, chargée d'émotions. Personne ne parle, mais tout le monde se comprend. Christophe est venu naturellement en tant que citoyen.
Pour moi, ça ne représente pas un effort. C'est du civisme à l'état pur. On a besoin de vraies valeurs au jour d'aujourd'hui et encore plus dans ces périodes plus que difficiles.
Lui vit à Conflans-Sainte-Honorine. Quelques élèves de l'établissement sont là aussi, tout comme des habitants des communes voisines ou de villes beaucoup plus éloignées. Jean-Claude Hubler est le président de l'association Life for Nice, créée après l'attentat de la promenade des Anglais. Il sait l'importance des marches blanches.
C'est un soutien, c'est le soutien entre victimes déjà, que la population suit. Oui, automatiquement, oui, c'est très très important. Je pense que même la famille ou les habitants doivent se sentir soutenus par le... Pas tout le monde, quand même.
Un dernier hommage rendu à Samuel Paty avant celui de la Nation demain à la Sorbonne. Départ dans une trentaine de minutes, direction la très symbolique Place de la Liberté.
Pierre Herbulot en direct du collège de Conflans-Sainte-Honorine où est organisée une marche blanche en hommage à Samuel Paty. Effectivement, on le rappelle, en attendant l'hommage national demain soir à la Sorbonne.
Oui, hommage que nous suivrons bien évidemment. Édition spéciale demain soir dès 19h sur Europe 1 et jusqu'à 21h. Du côté de l'enquête maintenant, les policiers s'intéressent à la mécanique de l'engrenage fatal. Europe 1 vous le confirme ce soir, il y a bien eu des échanges entre le terroriste et le parent d'élève à l'origine de la vidéo.
Oui, ce père de famille s'était plaint sur les réseaux sociaux, plusieurs publications, dont une vidéo pour appeler à la mobilisation contre Samuel Paty. On se posait la question de savoir s'il y avait eu par la suite des contacts entre le terroriste et lui. Gladys Laffitte, vous pouvez nous le confirmer, oui, il y en a eu.
Oui, des contacts téléphoniques ont clairement été établis entre les deux hommes par les enquêteurs. Des messages écrits tout d'abord, et ce pendant plusieurs jours avant l'attaque. mais aussi plusieurs appels. A priori, ils ont donc échangé au téléphone de vive voix. On ne connaît pas pour le moment le contenu de leur conversation, mais c'est un véritable enjeu. Si le terroriste a fait part de son projet au père de famille, pourquoi n'a-t-il pas prévenu la police ? Même question pour ces 5 collégiens toujours en garde à vue. Ils ont désigné Samuel Paty au tueur contre 300 euros. L'un d'eux avait été relâché par les policiers, mais il est de nouveau interrogé depuis aujourd'hui. Un mineur de 15 ans qui se serait fait aider par ses camarades, avec qui il a partagé l'argent. Qui a fait quoi et qui a désigné précisément l'enseignant, cela reste à clarifier. Mais pour les enquêteurs, les adolescents ne pouvaient pas ignorer l'issue violente de la démarche du tueur. La polémique enflait déjà depuis plusieurs jours et les vidéos du père de l'une de leurs camarades circulaient beaucoup sur les réseaux sociaux.
Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1.
Les hommages se multiplient pour saluer la mémoire de Samuel Paty. Il y aura la Sorbonne, bien sûr. Demain, il y a eu l'Assemblée nationale cet après-midi, mais l'ambiance, Christophe, est très vite redevenue électrique.
Oui, une minute de silence. Les députés saints de leur écharpe tricolore, la Marseillaise jouée par la garde républicaine, un moment d'union. Ce sera le seul. Majorité et opposition se sont ensuite déchirés sur les bancs du Palais Bourbon. Les uns veulent amender la Constitution et exigent un débat sur l'immigration. Les autres plaident pour une voie médiane. D'où des échanges très, très musclés, Claudia Bertram.
Oui, une ambiance rarement aussi tendue dans l'hémicycle. 4 jours à peine après l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine, la droite et l'extrême droite jugent insuffisante l'action du gouvernement et eut le Premier ministre Jean Castex dès les premières minutes de la séance.
L'heure est grave. Un peu de respect.
Le chef de file des députés LR, Damien Abad.
Assez de résignation et de capitulation coupable. La République du pas de vague, c'est la République qui abdique et qui, au final, laisse passer les islamistes. Ils sont passés. Et depuis 3 ans, votre majorité a refusé toutes nos propositions contre l'islamisme radical.
Décidément, toute occasion est saisie. En cette période de crise, pour nourrir la polémique.
Vous êtes dans l'incantation, nous sommes dans l'action, rétorque le Premier ministre sous les huées. Les députés LR font claquer leurs pupitres. Certains présidents de groupe affirment ne pas vouloir jouer le jeu de la division, comme le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon.
Nous, monsieur le Premier ministre, vos opposants, nous nous disons à vos côtés pour dire aux ennemis de la patrie républicaine « Vous ne nous faites pas peur !»
Dans l'hémicycle, on entend fusée « Vous avez manifesté avec eux » ou « Collabo ». L'Union nationale n'a pas trouvé beaucoup d'écho à l'Assemblée cet après-midi.
Claudia Bertram qui était donc à l'Assemblée nationale pour Europe 1.
Les députés qui semblent s'accorder sur une chose, au moins, réglementer ce qui se dit sur les réseaux sociaux.
Le gouvernement les a à l'œil. On parle bien sûr des Twitter, Facebook ou encore Snapchat. Et de ce point de vue, il devrait y avoir du nouveau. Que prépare l'exécutif, Clément Le Saffre ?
Eh bien déjà, il durcit le ton. La réunion de ce matin entre Marlène Schiappa et les patrons français des réseaux sociaux a été constructive, nous dit-on. Mais avec une ministre à l'offensive, l'État prend ses responsabilités. Nous en attendons de même de chaque réseau social, martèle-t-on Place Beauvau. Même fermeté chez Jean Castex cet après-midi lors des questions au gouvernement.
J'ai décidé d'affecter des renforts aux services chargés de surveiller sur les réseaux sociaux l'islamisme radical. C'est bien, mes chers amis, monsieur le député, parce qu'il a été nommément désigné par les réseaux sociaux que Samuel Paty a été assassiné.
Le Premier ministre a donc annoncé son intention de créer un délit de mise en danger d'autrui par la publication de données personnelles. Sauf qu'a priori, il va faire du neuf avec du vieux puisque le code pénal comprend déjà une mesure similaire. À voir donc s'il y en aura une nouvelle renforcée. Et le gouvernement va également réactiver un groupe de contact permanent. C'est un organe créé en 2015 qui réunit les représentants des réseaux sociaux et les agents du ministère de l'Intérieur. Il était inactif depuis quelques temps, mais une réunion en urgence se tiendra la semaine prochaine. Et puis, dernier point, le gouvernement incite fortement les réseaux sociaux à collaborer proactivement avec Pharos. Pharos, c'est la plateforme de la police pour le signalement des contenus illicites sur Internet.
Clément Le Saffre du service économie d'Europe 1 et le rôle des réseaux sociaux, on y reviendra longuement dans le club des idées d'Europe 1 tout à l'heure à partir de 19h15. La suite du journal dans un instant. L'Europe malade du Covid. 2 pays qui reconfinent.
Et puis Rennes découvre la Ligue des Champions et coronavirus ou pas, la ville veut fêter ça.
Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
Il est 18h09 et c'est la suite du journal de Christophe Lamarre avec le coronavirus qui continue sa progression en France mais aussi en Europe avec de nombreux pays dans lesquels on resserre la vis.
Oui, c'est le cas par exemple de l'Irlande et du Pays de Galles. D'autres n'en sont pas très loin. On pense à la Belgique ou encore à l'Italie. Bonsoir Roman Hoquet.
Bonsoir.
Roman, on va déjà s'intéresser à l'Irlande justement. Ce sera le premier pays d'Europe à reconfiner. Oui, mais pourquoi ?
Eh bien, le gouvernement irlandais veut prendre les devants pour éviter une situation plus grave, en fait, dans les prochaines semaines. Pourtant, le pays n'est pas du tout le plus touché en Europe. Pour vous donner une idée, à l'heure actuelle, il y a 2 fois plus de cas en France. En revanche, ce qui inquiète, c'est qu'en Irlande, le virus circule très vite. Plus de 1000 nouveaux malades ont été enregistrés hier. 2 mois plus tôt, il n'y en avait que 200 de plus par jour. À partir de demain, donc, tous les Irlandais devront rester chez eux pour 6 semaines jusque début décembre. Un reconfinement pour soulager le système de santé et aussi permettre à la population de passer les fêtes de Noël en famille.
Et Romane, peut-être un espoir quand même dans ce sombre panorama. Israël, elle, va déconfiner sa population.
Oui, alors un déconfinement très progressif. Pour l'instant, les Israéliens peuvent seulement se déplacer d'une ville à une autre, mais les restaurants et la plupart des commerces reste fermé. Il faut rappeler qu'en septembre, Israël avait enregistré un des taux de contamination les plus élevés au monde, 1400 cas pour 100 000 habitants. Aujourd'hui, après un mois de confinement, c'est 2 fois moins. En tout cas, les autorités israéliennes restent très prudentes. Pas question de répéter les mêmes erreurs que pour le premier déconfinement. Cette fois, l'allègement des mesures s'étalera sur plusieurs mois jusqu'en février 2021.
Merci beaucoup, Romane. Ok.
Certains États misent plus que jamais sur la découverte d'un vaccin. On pense à la Chine, aux États-Unis ou même aux pays européens.
Sauf que la confiance dans le remède miracle sera longue à installer. Elle n'est pas garantie. Selon cette étude publiée aujourd'hui par Nature Medicine, les scientifiques estiment par exemple que seuls 58% des Français seraient prêts à se faire vacciner. Insuffisant pour obtenir une immunité communautaire selon ces chercheurs. Et puis le foot, il y a la Ligue des Champions ce soir. Hein,
oui.
Et pour Rennes, c'est une grande première.
Oui, les Bretons accueillent les Russes de Krasnodar. Un match à 21h. Rennes va découvrir, vous l'avez dit Isabelle, la Ligue des Champions. Sa musique à l'entrée des joueurs sur la pelouse et son intensité. Cyril de la Morinerie, bien sûr, il y a le coronavirus. Mais franchement, les Rennais veulent fêter ça d'une manière ou d'une autre.
Oui, il y a beaucoup de fierté. La ville de Rennes affiche clairement son soutien. Sur la façade de la mairie, une banderole intitulée « Musique sacrée » a été accrochée. Référence à ce générique culte de la Ligue des Champions qui va pour la première fois résonner ce soir au Roazhon Park. Jean-Pierre, fan des Rouges et Noirs depuis un demi-siècle, est très ému.
Penser qu'on allait voir cette musique-là à Rennes, c'est extraordinaire. Par moments, on était considérés comme des losers et à juste titre. Et là, maintenant, nous sommes considérés comme une équipe qui tient la route.
Et oui, Rennes est désormais une place forte du foot français. 22 ans après le rachat du club par la famille Pinault, la victoire en Coupe de France il y a un an aux dépens du PSG a renforcé sa notoriété et séduit de nombreux jeunes, comme Julien qui va vivre sa première campagne de Ligue des Champions comme supporter.
Je pense qu'on peut faire un super match contre Krasnodar, pareil contre Chelsea. Séville, ce sera un petit peu plus dur.
Emmené par un jeune entraîneur, Julien Stéphan, le Stade Rennais compte aussi 2 stars dans son effectif. Un champion du monde, Steven Zonzi, et une pépite en devenir, le nouvel international de l'équipe de France, Eduardo Camavinga. De quoi enflammer le Roazhon Park, même si seulement 5000 personnes pourront assister à cette rencontre historique en raison du contexte sanitaire.
Voilà, Cyril de la Morinerie, ça rappelle des souvenirs. Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1.
Rennes, Krasnodar donc, et PSG, Manchester United. Émission spéciale dès 20h sur Europe 1. Bien sûr, on va suivre ces deux rencontres en fil rouge tout au long de cette soirée.
Et puis le monde du football pleure ce soir la disparition d'un grand gardien de but. Bruno Martini est mort des suites d'un arrêt cardiaque à l'âge de 58 ans. Il a été le gardien d'Auxerre, mais aussi de l'équipe de France dans les années 90. Et Giroud, qui l'a entraîné lors de ses années auxerroises, dit de lui, s'il y a un paradis, Bruno va y aller.
C'était le journal de Christophe Lamarre que l'on retrouve bien sûr à 18h30 pour le rappel des titres de l'info. La météo, Anissa Haddadi, Météo France, émet des vigilances ce soir, il faut être prudent.
Oui, nous avons actuellement, Isabelle, 12 départements placés en vigilance orange pour vent fort. Ça va des Pyrénées-Atlantiques jusqu'à l'Isère en passant par le Puy-de-Dôme et l'Aveyron, sans oublier le Cantal. Dans tous ces départements-là, il va falloir être très prudent parce que le vent souffle fort ce soir, cette nuit et demain. Alors l'événement, il vient tout juste de commencer. C'est en montagne, sur les crêtes pyrénéennes, que les rafales seront les plus fortes puisqu'on attend 160 à 200 km/h. Demain, les pluies se décalent vers le nord dans le ciel. Vous savez que nous avons toujours cette perturbation. Dans l'après-midi, les pluies vont s'estomper. En Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, le ciel reste couvert, mais le ciel reste sec. Du Pays Basque à l'Alsace, là, c'est un ciel dégagé et un temps sec. Dans les Cévennes, il pleut demain. J'essaye d'oublier personne. Et en Provence, Alpes-Côte d'Azur, il fait beau demain. Profitez de votre journée. Les températures, elles sont douces et elles remontent avec 7 à 17 degrés le matin. Au meilleur de la journée, nous aurons 16 à 20 degrés au bord de la Manche, 19 à 24 sur l'ensemble du pays avec 22 degrés à Paris et jusqu'à 26 dans le sud-ouest.
Merci Anissa, vous êtes parfaite. Vous n'oubliez jamais personne. On vous retrouve tout à l'heure.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Milleux.
Il est 18h18, merci à vous d'écouter Europe 1. Vous le savez, c'est l'heure de l'invité d'Europe Soir et en ligne avec nous ce soir, l'essayiste et géopolitologue Frédéric Ancel. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Merci de nous apporter votre éclairage, Frédéric Ancel, alors que l'exécutif cherche en ce moment la parade, une réponse forte après le drame de Conflans-Sainte-Honorine. Alors, on a compris que l'un des points clés de la crise qui est en cours était la gestion des radicalisés, particulièrement les étrangers. Un débat qui entraîne beaucoup de questions autour de ce qui semble a priori facile, expulser quelqu'un d'indésirable du territoire français. Pourquoi est-ce donc si difficile, Frédéric Ancel ?
Ben d'abord, c'est difficile parce que nous sommes un État de droit. On est une démocratie, donc on n'expulse pas quelqu'un pour des raisons autres que très formellement juridiques. Autrement dit, il faut que ce quelqu'un ait commis des délits ou des crimes ou qu'il soit en passe de commettre des délits ou des crimes. Et ça, c'est quelque chose qu'il est difficile parfois de démontrer. C'est le premier point. Deuxième point, on peut néanmoins tenter de chasser quelqu'un du territoire national s'il n'est pas français. Qu'on se souvienne du fameux imam de Vénissieux dans les années 2000. Alors lui, il n'avait pas commis de crime, mais il appelait à des comportements qui étaient manifestement violents, délictueux ou criminels. Le problème, enfin ce n'est pas un problème, encore une fois, on est dans une démocratie, heureusement, hein, c'est que tout doit être mis en œuvre sur le plan juridique et judiciaire conformément aux lois pour pouvoir appliquer ces expulsions.
Alors il y a la loi, effectivement, et puis il y a le fait que la France ne peut pas décider seule du départ de ces personnes. On entre là dans une forme de géostratégie de l'expulsion avec nos partenaires diplomatiques, c'est ça ?
Absolument. Alors le mot est bien trouvé. D'abord, on n'a pas le droit de faire un apatride. C'est-à-dire que si la personne n'a pas de passeport étranger ou si elle n'a pas de pays d'accueil, eh bien, on ne peut pas l'envoyer n'importe où. Enfin, l'envoyer sur une île déserte dans le Pacifique.
Alors comment ça se passe dans ces cas-là ?
On est obligé de négocier. Alors, parfois en sous-main, parfois de manière très directe, avec des États d'origine hein, de ces personnes. Sauf que lorsqu'on a affaire à des gens qui sont manifestement considérés comme violents, comme potentiellement terroristes ou faisant partie d'associations interdites dans ces pays-là. Tenez, je pense par exemple aux frères musulmans, les Ikhwan, qui sont quand même interdits dans plusieurs États musulmans eux-mêmes. Bon, eh bien ces États n'en veulent pas. Et par conséquent, on est très embêté, on se retrouve avec un vrai imbroglio, effectivement, comme vous le dites, à la fois juridique, diplomatique, géostratégique.
On comprend que les pays concernés ne sont pas enclins au retour de fondamentalistes religieux sur leur territoire, hein, c'est ça que vous nous dites ?
Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Prenez des pays comme le Maroc ou l'Algérie qui ont très durement souffert de l'islamisme radical. Prenez un pays comme l'Égypte qui en a très durement souffert, notamment des frères musulmans qui là-bas pour l'essentiel sont quand même en prison. Prenez des États comme les républiques musulmanes ex-soviétiques. Prenez un pays comme le Sénégal qui ne veut pas importer de problèmes terroristes et islamistes chez lui et chez eux, je parle de tous ces pays. Bah, bien évidemment, franchement, ils n'en veulent pas. Et c'est la raison pour laquelle la France qui reste, et tant mieux, une vraie démocratie, doit trouver d'autres solutions.
Frédéric Ancel, quand le ministre de l'Intérieur sur Europe 1 hier matin dit qu'il va entamer des démarches avec l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, c'est de l'affichage ?
Non, je crois que ce n'est pas que de l'affichage, parce que nous avons des relations très étroites avec ces pays-là. Je pense notamment au Maroc, qui est un État très ami et à certains égards allié de la France. Je pense à un État ami qui est la Tunisie. Alors évidemment, les relations avec l'Algérie ont toujours été plus compliquées, sauf que avec l'Algérie dans les années 90, hein, lorsque ce pays a été meurtri par une guerre civile provoquée par les islamistes radicaux, eh bien, on a eu quand même des rapports extrêmement étroits, et je pense notamment aux renseignements et à la chose militaire. Par conséquent, nous avons des rapports importants, y compris sur le plan économique, avec ces États, et on en joue. Donc non, ce n'est pas que de l'affichage.
Mais alors comment ça se passe ? Comment est-ce qu'on négocie avec ces pays ? C'est quoi le deal avec eux ? À quel genre d'équilibre diplomatique, économique, ça correspond ces discussions ?
On peut parfaitement négocier avec un certain nombre de pays, soit un soutien diplomatique sur une thématique ou une affaire qui n'a pas grand-chose à voir avec l'islamisme radical, mais au fond, pourquoi pas, ça se négocie. C'est vrai à l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est vrai au Conseil des sécurités, où vous savez que la France a un rôle tout à fait primordial. Ça peut se jouer également sur le plan commercial et économique. Après tout, on a des volumes d'échanges très importants avec les pays que vous venez de mentionner, hein, avec les pays du Maghreb. Et ça peut également se jouer sur des personnalités dont ces pays souhaiteraient qu'elles soient au contraire extradées si elles ont commis des délits ou des crimes dans ces pays. Alors, dernier point quand même qu'il ne faut pas oublier, la France, État de droit, démocratie, s'interdit d'expulser des ressortissants de pays dans lesquels ils risqueraient d'être soit torturés, soit exécutés.
Soit la peine de mort, oui. Est-ce que vous diriez qu'il y a une bonne coopération à l'heure actuelle ou pas avec ces pays du Maghreb qu'on a cité tout à l'heure, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc? Quel est l'état de cette coopération avec la France?
Oui, objectivement, la coopération est bonne et je vais presque vous dire par un faux paradoxe qu'elle est bien meilleure depuis les années 90 et 2000 encore qu'auparavant. Pourquoi ? Parce que nous luttons tous contre le même fléau. Il ne faudrait pas que vos auditeurs pensent que la France, qui pourtant est effectivement la cible primordiale des islamistes à mains égards, il ne faudrait pas qu'ils croient que la France, c'est la seule cible au monde. Et au fond, l'islamisme radical a déjà frappé de manière extrêmement violente et mortelle dans les pays musulmans eux-mêmes et peut-être plus particulièrement encore au Proche-Orient et au Maghreb. Autrement dit, avec par exemple, prenons cet exemple intéressant, un pays comme le Maroc, nous avons des relations extrêmement étroites en termes d'antiterrorisme et en termes de renseignements généraux.
Est-ce que ces pays peuvent nous aider justement avec davantage de renseignements ?
Ils nous aident. Oui. C'est-à-dire que, pour rester sur cet exemple marocain, un certain nombre de terroristes de 2015 étaient d'origine marocaine et étaient connus des services de renseignement marocains. Alors vous savez, quand on recherche quelqu'un, quand on met la main sur quelqu'un qui est en passe de ou qui vient de perpétrer un attentat terroriste, bah évidemment, on cherche immédiatement quels sont ses réseaux et on demande à nos alliés, c'est vrai dans le cadre d'Interpol, c'est vrai parfois dans le cadre de l'OTAN, c'est vrai de manière plus générale avec d'autres États, encore une fois, je pense là en l'occurrence au Maroc, bah on leur demande de nous donner des renseignements. Et là, les relations plus ou moins bonnes, plus ou moins excellentes parfois, entre les capitales, peuvent avoir un rôle très important.
Alors on parle des fichiers S identifiés, des radicalisés qui sont peut-être ou pas passer à l'acte, mais si on considère le Maroc ou l'Algérie, par exemple, il y a aussi le problème des imams qui sont en situation irrégulière. On en fait quoi ? Est-ce qu'on peut les renvoyer ? Est-ce que ça se passe aussi facilement ? On échange quoi ?
Oui, alors ça, c'est extrêmement compliqué comme problème. C'est-à-dire que, je vais vous dire, la question n'est pas de savoir s'ils sont imams ou pas. Vous savez que dans l'islam sunnite, qui représente environ 90% de l'islam dans le monde, et l'essentiel, la quasi-totalité des Français d'origine musulmane sont, bien sûr, sunnites. Il n'y a pas de clergé. Il n'y a pas de clergé. Autrement dit, vous êtes imam parce que vous êtes autoproclamé imam ou parce que vous avez été proclamé imam par vos ouailles au sein de la mosquée. Bon, très bien. Mais ça ne
change rien.
Particulier. Non, ça ne change rien. En tout cas, sur le plan juridique et judiciaire français, si, encore une fois, vous êtes accusé de vouloir perpétrer des attentats terroristes, évidemment, mais ne serait-ce que si vous êtes accusé avec des éléments concrets, de ne pas respecter ou de ne pas faire respecter les lois de la République, vous pouvez être expulsé si vous n'êtes pas ressortissant français, même si vous êtes imam.
En deux mots, Frédéric Ancel, parce que le temps court à toute vitesse avec vous, pour l'Afrique du Nord, on a l'impression que vous nous l'avez dit qu'il y a des moyens d'action, de pression. Quid de la Russie ou du Pakistan, par exemple ? Est-ce qu'on arrive à négocier aussi avec eux ?
Alors, non, c'est plus difficile. On a des relations beaucoup plus fraîches avec le Pakistan. D'ailleurs, c'est d'autant plus vrai que ces dernières années, la France s'est considérablement rapprochée de l'Inde. Alors, inutile de vous faire un dessin entre l'Inde et le Pakistan. C'est un état de quasi-guerre. Donc, c'est plus difficile avec le Pakistan. Alors, avec la Russie, c'est encore un autre problème parce que la Russie elle-même a été très durement frappée dans les années 2000 par des attentats terroristes à caractère islamiste. Par ailleurs, comme vous le savez, la Russie, évidemment, n'est pas membre de l'OTAN. Et dans le cadre d'Interpol, c'est quand même très compliqué de discuter avec eux. Donc, là, on est vraiment sur quelque chose de différent.
Ça fera l'objet d'une autre invitation, si j'ai bien compris.
Voilà.
En tout cas, c'est toujours passionnant de discuter avec vous. Merci beaucoup, Frédéric Ancel, d'être venu apporter votre éclairage sur ces sujets compliqués mais concernants. Vous avez notamment écrit, Frédéric Ancel, 100 mots de la guerre. C'est aux éditions PUF. Merci à vous.
Europe Soir, le 18-20. Isabelle Mieux.
Et à 18h30, c'est le rappel des titres de l'actualité avec vous, Christophe Lamar.
12 départements des Pyrénées jusqu'à la vallée du Rhône placés en vigilance orange, vent violent. Météo France prévoit des rafales de 160 à 200 km/h. La tempête Barbara est attendue dans les toutes prochaines heures. L'enquête sur l'assassinat de Samuel Paty, les policiers ont la certitude qu'il y a eu des échanges de messages entre le parent d'élève à l'origine des publications appelant à la mobilisation contre l'enseignant et le terroriste. Le coronavirus en France, tour de vis dans les Pyrénées-Atlantiques face à la circulation de plus en plus rapide du virus. À partir de jeudi, les bars devront fermer à 22h. Les fêtes locales, les soirées étudiantes seront interdites. Et puis les sports, première journée journée de la Ligue des Champions, PSG Manchester United et Red Krasnodar. Coup d'envoi de ces deux rencontres à 21h. Édition spéciale Ligue des Champions ce soir à partir de 20h sur Europe 1.
Merci Christophe Lamarre. L'info revient avec vous à 19h avec un nouveau journal complet. On fait un point de nouveau avec vous sur la météo. Anissa Haddadi, Christophe Lamarre l'évoquait à l'instant. Ça y est, la tempête Barbara arrive. Hein.
Oui, ça y est. Elle a commencé effectivement à toucher le golfe de Gascogne depuis quelques minutes. Ça va se poursuivre tout au long de la nuit. Demain, toute la journée, avec actuellement 12 départements situés des Pyrénées-Atlantiques jusqu'à l'Isère, en passant par le Puy-de-Dôme, le Cantal et l'Aveyron. Ces 12 départements sont placés en vigilance orange, vent fort par Météo France. Christophe Lamarre le disait, des vents forts jusqu'à 200 km/h attendus en montagne. En plaine, ça souffle un petit peu moins fort. Mais là, la situation est en train d'évoluer et maintenant, on attend des vents violents sur les trois quarts du pays jusqu'en Bretagne. Et cette dépression Barbara, elle va aussi donner des pluies assez soutenues sur la Bretagne. Alors dans le ciel, demain, sur les côtes du Nord-Ouest et les Cévennes, il pleut. Demain, ailleurs, c'est mitigé, partagé entre nuages et éclaircies. Les températures, elles sont douces et elles remontent avec cette couverture nuageuse assez importante. 6 à 16 degrés demain matin, 17 à 26 dans l'après-midi. Nous aurons 22 degrés à Paris, 23 à Lyon, 24 à Marseille et 26 à Mont-de-Marsan.
Et je vous ai vu, Anissa, regarder en même temps que vous nous parliez la carte météo qui évolue. Hein. C'est bien sûr du direct, ça évolue, ça touchera peut-être les trois quarts de la France. On fera un nouveau point complet avec vous, évidemment, à 19h.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Milleux.
Après le drame de Conflans-Sainte-Honorine, le gouvernement contraint à une obligation de résultat. Les Français attendent des mesures concrètes. Ils ne pourront pas se contenter de condamnations et dommages nationaux. On en parle ce soir avec vous, les grandes voix, Gérard Carrérou et Charles Villeneuve. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir, Isabelle. Bonsoir.
Alors cette tâche très délicate, elle repose essentiellement sur les épaules du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avec, je le disais, une obligation de résultat pour que la peur change vraiment de camp, comme l'a promis Emmanuel Macron. Ça veut dire fini les demi-mesures.
Il faut frapper vite et fort. Alors c'est facile à dire, mais c'est difficile à faire. Pourquoi ? Parce que effectivement, le ministre Darmanin, on peut pas lui reprocher de ne pas avoir des intentions d'agir vite et fort. Il en a les convictions. C'est lui, n'oublions pas que c'est lui qui avait parlé avant que ça arrive dans Sauvagement, aux grandes dames de certains autres ministres. Donc il en a l'intention.
Il est l'homme de la situation.
Je crois qu'il est bien là où il est, parce qu'effectivement, je redoute ce qu'on aurait pu penser si on avait gardé le ministre précédent. Bon, mais les intentions, je vais prendre juste l'exemple de la fermeture de la mosquée de Pantin, qui interviendra dès demain soir. On la ferme pour 6 mois. Est-ce que c'est une mesure efficace ou pas ? Fermer la mosquée pour 6 mois, ça veut dire que les musulmans qui fréquentaient cette mosquée, peut-être quelques centaines, peut-être plus, je ne sais pas, c'est assez important, Pantin, vont se trouver sans endroit pour aller prier. Il va donc y avoir une forme de colère, de ressentiment. Et puis quoi ? On ne touche pas à l'imam qui a été quelque part, on verra à quel niveau, mais qui a été un peu complice dans l'opération qui a abouti à l'exécution terrible du professeur. Eh bien, cet imam, apparemment, sa mosquée sera fermée pour 6 mois.
Pour
et lui, on ne nous dit pas ce qui lui arrivera. Bon. Et puis, au bout de 6 mois, le droit imposera de revoir la décision. Alors, on la refermera encore pour 6 mois ou on la rouvrira. Et c'est pareil pour toutes les mosquées salafistes de France. Il y en a 150 peut-être. Bon, on risque d'en fermer quelques-unes. Est-ce qu'on va s'en prendre directement aux imams qui les font tourner ? Est-ce qu'on va les fermer pour ad vitam aeternam ? Pour certaines d'entre elles, ça serait de salut public. Mais c'est à chaque fois extrêmement difficile. D'où l'idée que je me dis, c'est très bien d'avoir l'envie de prendre des mesures fortes. Et puis il y a aussi le calendrier, et je terminerai là-dessus. Le calendrier, c'est élection présidentielle. Dans 18 mois, on est en campagne présidentielle et il faut faire tout ce travail dans les 18 mois qui viennent. C'est peu.
Charles Villeneuve ?
Écoutez, moi, j'ajoute sur l'implication de l'imam de la mosquée de Pantin, c'est qu'il a relayé une vidéo qui donnait l'adresse du professeur d'histoire-géographie. Donc il est impliqué, manifestement.
Et je comprends c'est pas pénalement répressible.
Oui, et c'est beaucoup plus, si vous voulez, c'est un fait matériel qui pourra parfaitement constituer, si vous voulez, un indice de présomption très forte pour le juge si on lui interdit de toute façon de prêcher. Je pense que c'était la bonne décision, plutôt que de fermer la mosquée, parce qu'ils vont se répandre par tous les fidèles, de toute façon, et ils continueront à fréquenter d'autres mosquées, peut-être aussi salafistes. Je ne sais pas si la mosquée de Pantin était classée salafiste. Non, mais quand on choisit, si vous voulez, l'épreuve de force, et qu'on appelle à des actions concrètes, on appelle aussi à des résultats. Le président de la République a dit qu'il voulait cibler l'islamisme radical, mais pas les musulmans. Et l'affaire n'est pas facile du tout pour le ministre de l'Intérieur, parce que la France a ce qu'il faut juridiquement contre le terrorisme, pas contre l'islamisme. Et ça, c'est assez important, si vous voulez, de considérer cette notion-là. Prenons par exemple la dissolution, c'est l'objectif numéro un du ministre de l'Intérieur, du conseil du collectif contre l'islamophobie en France. Bon, si vous voulez, rappelons-nous que les sages du conseil constitutionnel ont censuré la loi contre les contenus haineux.
La loi Avia, oui.
Voilà, poussée par la députée de La République En Marche, Laetitia Avia, qui contraignait notamment, si vous voulez, les associations et les réseaux sociaux à retirer tous les contenus dans les 24 heures, les contenus haineux.
Sous prétexte d'atteinte à la liberté d'expression.
Voilà. Et cette loi a été censurée au nom de la liberté d'expression, justement, qui est finalement quasiment sacré en France, si vous voulez. C'est-à-dire que la loi, que l'argument de la députée s'est retourné même contre sa propre proposition. Alors, il est évident qu'on va revenir là-dessus, parce qu'il faudra bien, et d'ailleurs le conseil, le CCIF, a dit que c'était suffisant de toute façon pour en réalité, si on voulait dissoudre l'association, pour stigmatiser et les musulmans prendront cette décision comme une attaque, si vous voulez, contre les musulmans de France. Et ce n'est pas faux. C'est pour ça que c'est assez délicat et que la tâche du ministre de l'Intérieur est très difficile. Il n'est pas impossible, d'ailleurs, vous verrez dans le cours, évidemment, des choses, que ressurgisse le droit pénal à l'ennemi.
Oui.
Rappelez-vous que le président de la République précédent, François Hollande, y avait puisé la déchéance de nationalité. Ce qui valait pour la plupart des djihadistes qui étaient libérés, et un certain nombre l'ont été, pour quitter la France. Et évidemment, ça avait échoué, puisque c'est une révision constitutionnelle. Et une partie de la gauche avait été extrêmement critique à l'égard de François Hollande, réprouvant que ça vienne de leur propre camp.
On va y revenir, on poursuit ce débat dans un tout petit instant, messieurs, sur Europe 1, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Milleux.
Il est 18h41 sur Europe 1 et on poursuit ensemble notre débat des grandes voix, toujours avec Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Après la colère et l'écœurement provoqués par la décapitation d'un enseignant par un terroriste islamiste, le gouvernement sommet d'agir. On a évoqué tout à l'heure les dissolutions d'associations, messieurs, qui s'annoncent très compliquées, contre l'islamisme radical. Le Sénat a voté hier une proposition de loi de sa majorité de droite afin d'inscrire dans la Constitution la prééminence des règles de la République contre l'avis du gouvernement qui juge ce texte inutile. En gros, le Sénat veut modifier la Constitution. Ça a peu de chances d'aboutir.
C'est tout le problème. Le problème, c'est qu'il y a une partie de nos dirigeants qui pensent que la France dispose largement déjà d'un arsenal juridique et judiciaire qui lui permet d'affronter.
Charles Villeneuve
nous
disait le contraire.
Je pense comme Charles que ce n'est pas vrai. Pourquoi ce n'est pas vrai? Peut-être que dans les textes formels des lois, etc., on dit, oui, vous voyez, on a les arguments, on a les armes. En réalité, ce n'est pas vrai parce qu'au fil des ans, et notamment des 20 dernières années, notre état de droit est devenu de plus en plus, je dirais, soft, je dirais même mou, laxiste en partie, et de plus en plus protecteur pour les agresseurs de la France, et de moins en moins protecteur pour les citoyens français. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a en plus un certain nombre, il y a d'abord la faiblesse d'un certain nombre d'hommes politiques, gauche et droite confondus au fil des 20 dernières années, il y a les institutions que nous avons qui sont des freins, vous avez cité, on pourrait citer le Conseil constitutionnel, Charles l'a cité, mais on pourrait également citer le Conseil d'État. Souvenez-vous de l'affaire du voile. La première bataille, ça a été la bataille du voile. Le Conseil d'État a renvoyé la balle. Il n'a pas osé prendre une décision. Il a fallu attendre 10 ans de plus pour avoir une décision.
Alors avec tous ces freins, on fait comment ?
J'oublie l'Europe. Les décisions européennes et les institutions européennes, par exemple la Cour européenne de justice, ne se privent pas de casser un certain nombre de décisions françaises.
Quand on vous écoute, on se dit qu'on ne va jamais rien pouvoir
faire.
On
va y arriver, si, parce que je crois que le président de la République joue un rôle fondamental. S'il a vraiment, lui, et je pense qu'il l'a, on verra demain, s'il a vraiment envie de marquer son quinquennat par cette politique de fermeté face à l'islamisme et face au terrorisme, la volonté politique, ça joue quand même. Vous avez le général de Gaulle, il a bougé un peu, il a fait bouger les institutions. On peut faire travailler la poutre, comme disait autrefois.
Vous pensez qu'on peut avoir des annonces fortes à l'issue du Conseil des ministres
demain ? Ça, j'en sais encore rien.
Charles Villeneuve ?
Mais écoutez, il y a d'abord toujours avoir en tête cette notion qui est très importante, parce que très souvent, on met en accusation les juges d'instruction. La justice ne suit pas, dit-on. La justice, les juges sont formés d'une manière extrêmement stricte sur ce plan-là. Ils ont besoin, si vous voulez, de dossiers dont les preuves sont avérées, de faits matériels. Et c'est la raison pour laquelle, ne trouvant pas, si vous voulez, la constitution...
Ce qui est normal.
Mais absolument. Et c'est ce qui fait que très souvent, les condamnations ou les expulsions sont plus difficiles à obtenir. C'est à décharge, si vous voulez, des juges. Gérard ne va pas m'accuser de plaider en faveur des juges, mais j'ai longtemps pratiqué les juges pour savoir qu'ils sont assez scrupuleux sur ce plan-là. Et il ne faut pas l'oublier. Alors, la lutte contre le terrorisme, mais aussi la lutte beaucoup plus difficile contre l'islamisme radical, s'inscrit dans un temps long. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez, il ne faut pas attendre de résultats spectaculaires tout de suite.
Sauf que les Français, aujourd'hui, oui, ils veulent des résultats. Ça a été vraiment terrible, cette image de Samuel Paty décapité. Ils sont très impatients, les Français.
C'est pour ça qu'il y a une possibilité. Moi, je pense qu'il y a, pour la première fois, depuis 5 ans, pour la première fois...
Charlie Hebdo.
On avait compris.
On a compris, je pense. Pour la première fois, on est dans un moment... Il y a un instant décisif, toujours, quand on regarde les choses. Il y a des moments où la situation n'est pas encore assez mûre, et puis tout d'un coup, il y a un moment décisif, et l'opinion... Et là, je crois que, malheureusement...
C'est maintenant.
Pour ce professeur, cette tête coupée, elle restera dans la tête des Français, et pour longtemps. Donc je pense que là, il y a des possibilités d'intervention. Mais quand Charles dit les juges sont scrupuleux, regardez le sort de ce garçon qui venait de Tchétchénie, l'OFPRA, l'Office...
Il avait bénéficié de la protection de la France.
L'OFPRA,
hein.
Oui, mais l'OFPRA avait décidé de ne pas l'accepter comme réfugié du droit d'asile. Qui est-ce qui a décidé de laisser entrer lui et sa famille ? C'est le juge français qui a statué, après que l'OFPRA ait dit non, le juge français a dit oui, et il est entré. Et ça, on le trouve dans un... Et d'ailleurs, ça scandalise beaucoup de gens, on le trouve dans un certain nombre de décisions.
Mais l'attribution, c'est vrai, tu as raison de souligner, l'attribution du droit d'asile est beaucoup plus délicat, et des fois, il y a une sorte de, si vous voulez, de tolérance beaucoup trop large, par rapport à l'attribution de ces droits d'asile.
Mais c'est vrai compliqué, que ça, parce que c'est géré discussion. Par la Convention de Genève, le droit international.
Oui. Très vrai. Mais si vous voulez, les dissolutions d'associations reposent sur des bases juridiques incertaines. De la même manière, les expulsions annoncées. Il faut le dire, c'est un peu du réchauffé, la liste des 231. Mmh. Ça court depuis plusieurs mois, déjà qu'un certain nombre de ces gens inscrits, si vous voulez, sur ces listes d'expulsables, traîne, parce que c'est pas si facile que ça. Tout à l'heure, vous avez abordé dans votre discussion avec Frédéric Ancel le problème des négociations. Hier, je vous avais dit qu'il a le ministre de l'Intérieur qui va se rendre dans les pays du Maghreb, notamment, le plus accueillant étant très largement le Maroc, aussi la Tunisie, moins l'Algérie, mais l'attribution des visas est une arme, si vous voulez, le nombre d'attribution de ces visas est une arme de négociation importante aussi bien pour le ministre de l'Intérieur que le ministre, ministre des Affaires étrangères. Ouais. Mais il y a aussi l'efficacité opérationnelle des perquisitions. Croyez-vous que la plupart de ces militants n'attendaient pas la visite des policiers qui ont fait irruption, si vous voulez, dans leurs locaux ? ils ont largement eu le temps de faire le ménage, de nettoyer. C'est pour ça que le résultat ne sera pas certainement aussi fructueux qu'espéré.
Est-ce
mais
que je comprends dans ce que vous me dites, messieurs, le temps long et
oui,
le couple
et
ministre
seuls,
de l'Intérieur,
États.
Ministre de la Justice, qui doit être soudé, ils doivent être soudés tous les deux comme
or,
jamais dans le contexte actuel.
On avait vu
actuel.
Qu'il n'était pas tant que ça. Alors,
il faut qu'il
le
soit
parce que
fois-ci.
Le président va taper sur
oui.
la table.
Oui.
On marque une toute petite pause. À tout de suite, les grandes voix.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Milleux.
Il est 18h51 et on poursuit le débat des grandes voix avec Gérard Carrérou et Charles Villeneuve, toujours en direct. On a évoqué il y a quelques instants la tâche immense qui attend le gouvernement et en particulier le ministre de l'Intérieur, mais aussi celui de la Justice, pour apporter une réponse forte après le drame de Conflans-Sainte-Honorine. Je voudrais, messieurs, si vous le voulez bien, qu'on élargisse un peu le débat. On a le sentiment que jamais un gouvernement n'a eu à gérer autant de problèmes qui apparaissent pratiquement insurmontables. La crise sanitaire, le Covid, crise économique sans précédent, cette terrible affaire, bien sûr, de Conflans-Sainte-Honorine, auquel on peut ajouter les inondations dans le Sud-Est, les gilets jaunes. C'est comme si tous les vents contraires se déchaînaient sur ce gouvernement.
C'est un vrai programme politique, ce que vous avez développé là. Non mais c'est
pas
vrai.
Rien.
C'est vrai, c'est un programme politique. Il faut à la fois démontrer aux Français qu'on tient fort sur le terrorisme, dont on vient d'en parler, annoncer aux Français qu'on va gérer assez bien la crise sanitaire en évitant qu'il y ait à nouveau 30 000 morts de plus. Ça, c'est déjà le deuxième dossier. Puis quand on a fait ça, il faut se dire, attention, et puis et dans quel état est l'économie du pays? Comment relancer? Alors certes, à coups de milliards grâce à l'Europe, pour une fois grâce à l'Europe, mais il faut en sortir, il faut remettre les gens au travail, c'est pas possible. L'État français paye les salaires de la moitié des Français. Or ça, on l'a jamais vu, sauf dans les États socialistes, je veux dire même dans les pays communistes d'autrefois. Donc à un moment donné, il faudra sortir de ça, et puis il reste encore Charles, qui connaît bien la région, il reste tout ce qu'il faut rembourser à tous ces pauvres gens qui ont été...
Les
aléas climatiques, attendez, Barbara qui est... La
tempête
qui est en train d'arriver, peut-être,
encore, oui.
peut-être qu'il y aura encore des dégâts considérables. Donc voilà à peu près les quatre points. Bah, si Macron se sort bien de ces quatre points, alors je veux dire alors, qu'il aura...
Est-ce que c'est un quinquennat tragique, comme l'écrit ce soir le journal Le Monde, Charles Villeneuve ?
Oui, je pense que, si vous voulez, entre de toutes les urgences que vous avez énumérées, et sur lesquelles est venu aussi Gérard Carrérou, entre la crise sanitaire et celle du terrorisme, je trouve que ce sont deux urgences qui favorisent ou contribuent à la droitisation, si vous voulez, du quinquennat, et qui affaiblit, du même coup, la doctrine macroniste du « en même temps », c'est-à-dire gauche et droite, c'est qui a fait son élection en 2017, il ne faut pas l'oublier. Il y a 20 millions de Français, tu as sous-entendu d'ailleurs, qui sont tous anxieux et inquiets, puisque le confinement restreint, en quelque sorte, du couvre-feu autour de 9 métropoles et pour toute la nuit jusqu'à 6 heures du matin, plonge dans l'anxiété par rapport justement à la menace de la crise sociale et économique, 20 millions de Français qui sont anxieux. Et je pense que cette anxiété, si vous voulez, a pu transparaître dans l'intervention le 14 octobre du président de la République. Parce qu'au lieu d'imposer, si vous voulez, comme ça avait été jusqu'à présent son ton dans la gestion de la crise sanitaire, il a fait appel à la participation, à l'intelligence des Français. Il a répété 3 fois, j'ai besoin de vous.
Est-ce que finalement les Français vont avoir un peu d'indulgence quand même face à cet alignement des planètes, ou est-ce qu'au contraire, vu qu'ils sont affectés par tous ces maux, ils vont en vouloir encore plus à l'exécutif? Est-ce que la cocotte minute risque d'exploser?
Ce sera partagé, oui. Ce sera partagé.
Il y aura beaucoup de gens qui, de toute façon, diront « il est affaibli, il faut l'achever ».
Oui.
Il va y avoir, enfin, prenons, depuis la droite dure du Front National jusqu'à d'autres, de la droite moins dure des Républicains.
Ça, c'est la tradition des cirques romains.
Et c'est la tradition aussi d'une bataille électorale. Pourquoi voudriez-vous que ça change et qu'au moment de voter, dans quelques mois, puisqu'en fait, ça revient à ça, une quinzaine de mois, au moment de voter, les gens, tout d'un coup, découvrent une volonté d'indulgence particulière à l'égard du chef de l'État. Chef de l'État, ils sont là pour faire le boulot, et s'ils ne font pas le boulot, ben on les change.
Oui, mais en même temps, si vous voulez, je ferai une remarque, justement, que je reprendrai une des remarques du ministre de l'Intérieur sur Europe 1, au micro
hier
de Samia Mabrouk,
oui.
Lundi. C'est que, en ce qui concerne, par exemple, la crise terroriste, tout l'arsenal juridique qui a été, si vous voulez, élaboré, voté à l'Assemblée nationale, ratifié par le Sénat, et qui est rentré dans l'actualité, si vous voulez, de la répression policière et puis des services de renseignement, le Front National, le Rassemblement National, n'en a voté aucune de ces lois. Aucune. Et donc, si vous voulez, peut-être qu'ils vont achever, comme dit le gladiateur Macron, comme on le faisait à l'époque de Rome, c'est ce que j'appelle la tradition du cirque romain, mais je suis, moi, plus optimiste, si vous voulez,
que Gérard.
Je l'ai toujours été. Je suis d'un tempérament optimiste. Je pense quand même qu'on reconnaîtra une certaine qualité quand même du gladiateur Macron dans cette gestion.
Je compte sur vous, messieurs, pour suivre le gladiateur Macron. Merci à vous, les grandes voix, Gérard Carrérou, Charles Villeneuve, d'avoir été encore avec nous ce soir. On vous dit à très vite.
Europe 1, Isabelle Millet.
Et on se retrouve dans quelques secondes sur Europe 1 avec le journal de 19h. Et puis on ouvrira, comme tous les soirs, le Club des idées. Grand débat ce soir autour du rôle parfois trouble des réseaux sociaux dans la diffusion de la haine en ligne. Comment mieux les contrôler ?
Europe 1.